Radio Prague, les informations.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Radio Prague pour ce bulletin d'information. Aujourd'hui en titre, le ministre des Affaires étrangères Karel Schwarzenberg parie sur la fédéralisation de l'Europe. Sondage, les sociaux-démocrates en perte de vitesse auprès des électeurs. Enfin, le ministère des Finances promet l'envoi de 50 millions de couronnes, 2 millions d'euros, au fonds cinématographique tchèque. Le chef de la diplomatie tchèque, Karel Schwarzenberg, est convaincu que la fédéralisation de l'Europe est inévitable. Une déclaration faite en compagnie de son homologue belge, Didier Reynders, en visite officielle en République tchèque ce jeudi. Le ministre des Affaires étrangères tchèque a toutefois précisé qu'il n'exprimait que son avis personnel. Selon Karel Schwarzenberg, les éléments d'une fédéralisation de l'Europe sont nécessaires afin de lutter contre le retour de la crise. Selon le ministre tchèque, l'existence d'une devise communautaire sans politique budgétaire est une erreur qui a contribué à la situation de crise actuelle, situation que les Européens s'efforcent de résoudre. Favorable à l'adoption du pacte européen de stabilité budgétaire, le ministre des Affaires étrangères se situe à contre-courant de la position dominante au sein de la coalition gouvernementale qui persiste à s'opposer à la signature du texte par la République tchèque. Sondage, le CSSD, les sociaux-démocrates perdent leur soutien auprès des citoyens. C'est ce qui ressort d'une étude menée par le Centre pour l'étude de l'opinion publique. Au mois de juin, 31% seulement des Tchèques auraient donné leur voix au Parti social-démocrate contre 36% au mois de mai. Malgré cette baisse des intentions de vote, les sociaux-démocrates remporteraient les prochaines élections. Le Parti communiste et le Parti de la droite conservatrice restent stables dans les intentions de vote, obtenant un cinquième des voix. Le Parti des Verts reste sous la barre des 5%, score nécessaire à leur entrée à la Chambre des députés. Sondage toujours, seuls 49% des Tchèques sont capables de s'exprimer dans une langue étrangère. Un chiffre rendu public dans l'Eurobaromètre qui place les Tchèques bien en dessous de la moyenne communautaire située à 54%. L'étude européenne a ainsi montré que du point de vue de la maîtrise d'au moins une langue étrangère, les Tchèques se plaçaient à la 19e place sur 27. Parmi les langues étrangères les plus parlées en Europe, l'anglais arrive en tête avec 38%. Viennent ensuite le français et l'allemand. Le tribunal de Cracovie a rendu une sentence allégée aux deux hommes poursuivis pour violence raciale contre un groupe d'habitants roms de la ville de Niasko, dans le sud de la Bohême, au mois de juillet dernier. Václav Bublik et Jiří Miškovits s'en étaient pris à une famille de roms après avoir battu à coups de batte de baseball deux jeunes garçons roms. Les deux hommes ont poursuivi alors chez eux les deux jeunes garçons avant d'attaquer l'ensemble de leur famille. Les coupables ont été punis de 18 mois d'emprisonnement ferme et 3 ans avec sursis. Culture enfin pour finir, le fonds pour la cinématographie recevra une enveloppe de près de 50 millions de couronnes du ministère des Finances. En raison d'une situation financière difficile cette année, le fonds n'a pas pu distribuer ses aides aux réalisateurs tchèques, lesquels ont dû se contenter d'un soutien symbolique. Le ministère de la Culture a confirmé cette information et a fait savoir à l'agence tchèque de presse que le fonds cinématographique recevra bien cette aide substantielle. Alors que le montant annuel des aides au cinéma tchèque s'élève normalement à 200 millions de couronnes, le budget 2012 a été fixé à 10 millions de couronnes seulement. Météo, demain vendredi, le ciel sera ensoleillé sur la majeure partie du territoire. La pluie est toutefois attendue dans l'est du pays en début d'après-midi. Les températures maximales seront comprises entre 23 et 27 degrés. Nous fêterons demain, vendredi, les Pavlas. Bonne soirée à toutes et à tous. La suite du programme dans un instant avec Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à notre ami Pauli pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous, chers auditeurs, à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. La rénovation de l'autoroute qui relie Prague à Brno, la principale autoroute du pays, et le 70e anniversaire de l'exécution du résistant Alois Eliáš, un personnage paradoxal puisqu'à la fois légionnaire, haut dignitaire de l'armée tchécoslovaque, mais aussi premier ministre du gouvernement du protectorat de Bohême-Moravie sous l'occupation allemande. Tels sont les deux grands titres qui figurent au programme de cette actualité et que nous développerons dans quelques instants. Et puis comme tous les 15 jours, le jeudi, la seconde partie de notre programme sera réservée à la rubrique tchèque célèbre et moins célèbre, avec aujourd'hui le portrait de Kateřina Geislerová, styliste et créatrice de mode tchèque installée depuis près de 20 ans à Paris. Kateřina Geislerová s'est confiée à Radio Prague. Nous l'entendrons donc dans la seconde partie de ce programme. Très bonne écoute. Autoroute tchèque, la plus ancienne, la plus longue, la plus fréquentée, la plus encombrée, la plus dangereuse, mais aussi la plus mauvaise, la D1, qui relie Prague à Brno, va prochainement subir d'importants travaux de rénovation. C'est du moins ce qu'a confirmé ce mercredi le ministre des Transports, Pavel Dobesch. À partir de cet automne et jusqu'en 2018 au plus tôt, 21 tronçons d'une longueur totale d'environ 160 km devraient être progressivement réparés. Estimé à près d'1 milliard d'euros, soit 6 millions au kilomètre, le montant des travaux, crise dans l'industrie du bâtiment et des travaux publics aidants, pourrait toutefois être quelque peu revu à la baisse. En attendant, ce sont les travaux les plus compliqués en République tchèque et c'est en ces termes que le ministre des Transports présente la modernisation prévue de l'autoroute qui relie les deux plus grandes villes du pays. Une autoroute que les automobilistes tchèques, souvent coincés dans ses fréquents embouteillages, n'hésitaient jamais à décrier jusqu'à la surnommer de manière évocatrice les escaliers vers Brno. À raison, il est vrai, tant la D1 ou la D1, comme disent les Tchèques, se transforme régulièrement en une interminable colonne de véhicules au moindre travaux ou accident. Le but des travaux sera précisément d'élargir l'autoroute en la faisant passer de ses deux voies actuelles à trois dans les deux sens. Toutefois, ces six voies sur la totalité de la longueur de l'autoroute ne sont prévues que pour 2050. En attendant, d'ici à 2018, donc, ce sont 160 km divisés en 21 tronçons allant de 3 pour le plus court à 14 km pour le plus long qui seront réparés. Et à partir de cet automne, ce sont les travaux des 5 premiers de ces tronçons qui devraient être entamés, comme l'a confirmé David Tchermak, le directeur général de la direction des routes et autoroutes. On écoute.
Nous comptons sur le calendrier optimal, c'est-à-dire avec la signature du contrat pour le 5 octobre. Le chantier pourrait alors être remis aux fournisseurs des travaux dans les jours suivants. Il ne faut pas non plus oublier que des procédures d'appel pourraient être lancées par les entreprises qui n'obtiendront pas le marché, mais même dans ce cas de figure, les travaux devraient commencer avant la fin de cette année.
Pour l'heure, un appel d'offres a été lancé pour la réalisation des travaux des 5 premiers tronçons, la remise des offres étant prévue pour le 16 juillet. Comme souvent en République tchèque pour la réalisation des travaux publics et notamment des routes et autoroutes qui ont la réputation d'être les plus chères en Europe, un des principaux problèmes de ce projet est son prix. Toutefois, dans le cas présent, le montant au kilomètre devrait être inférieur à celui initialement prévu dans le projet. Le ministre Pavel Dobesch explique pourquoi.
Étant donné la crise que traverse actuellement l'industrie du bâtiment et des travaux publics, qui a enregistré une baisse de son activité de plus de 9% par rapport aux années précédentes, et étant donné l'importante demande de travaux en provenance des entreprises de travaux publics, nous pouvons légitimement penser que le prix des travaux sera nettement revu à la baisse.
Si le ministre des Transports a refusé d'être plus concret et d'évoquer des chiffres précis, selon la presse spécialisée, l'État peut espérer économiser jusqu'à 10% sur le budget initial, soit plusieurs centaines de millions de couronnes. À en croire le directeur de la direction des routes et autoroutes, le prix des travaux pourrait même constituer le critère fondamental au moment de choisir le vainqueur de l'appel d'offres. Et leur volume de commandes ayant chuté d'environ 40% depuis 2008, soit avant la crise, les entreprises du bâtiment et travaux publics, pourtant plus habitués à dicter leurs propres conditions, s'affirment prêtes à formuler des offres au rabais. La rénovation de chaque tronçon devrait durer 11 mois, la réalisation de 4 à 5 tronçons chaque année étant prévue jusqu'à l'horizon 2018. D'ici là, l'autoroute D1 restera plus que jamais un cauchemar pour les automobilistes tchèques. Place maintenant à l'histoire dans l'actualité. Le 19 juin, 70 ans se sont en effet écoulés depuis l'exécution par les nazis d'Aloïs Eliache. Aloïs Eliache était un ancien légionnaire, au dignitaire de l'armée tchécoslovaque, mais aussi premier ministre du gouvernement du protectorat de Bohême-Moravie sous l'occupation allemande et aussi résistant de la première heure. Retour sur un destin brisé avec Anna Kubichta.
C'est devant la maison de la rue Francouzska, au numéro 36, à Prague, que se sont rassemblés mardi les représentants de la communauté des anciens légionnaires, les membres d'associations d'anciens combattants et les représentants de la mairie d'arrondissement pour rendre hommage à Aloïs Eliache, né dans cette maison en 1890. Aloïs Eliache a fait la carrière typique d'un haut dignitaire de l'armée et d'un homme politique de la nouvelle Tchécoslovaquie, comme le rappelle Eduard Sterlik, historien à l'Institut d'Histoire Militaire.
Pendant la Première Guerre mondiale, il a été membre des légions en Russie et en France. Dans l'entre-deux-guerres, il a fait partie des grandes personnalités qui ont construit la nouvelle armée tchécoslovaque. Il avait des liens très étroits avec la France, il est passé par l'école supérieure de guerre de Paris. Il a eu une activité internationale pendant la conférence sur le désarmement en 1932-1933 à Genève. Il était expert en questions militaires pour le ministre des Affaires étrangères, Edvard Beneš, époque où ils ont créé des liens d'amitié.
En 1939, après l'invasion de la Tchécoslovaquie par les nazis, il devient premier ministre du gouvernement du protectorat de Bohême-Moravie. Pourquoi propose-t-on ce patriote à ce poste peu envieux et pourquoi l'accepte-t-il ? Sans doute parce que tous estiment qu'il est le plus à même de défendre les intérêts tchèques, même dans l'adversité. Et en effet, il n'en restera pas là, comme le souligne Jan Urlich de l'Institut d'Histoire Militaire.
Alois Eliáš a pris ce poste suite à la volonté de grands représentants politiques tchèques, mais dans le même temps, il est dès le début à la tête de la résistance intérieure. Il prend très vite contact avec le gouvernement tchécoslovaque en exil et toutes les décisions du gouvernement du protectorat ne se font qu'avec l'accord de la résistance à Paris, puis à Londres.
Mais tout cela prend fin en août 1941. En effet, en septembre, le nouveau protecteur du Reich, Heinrich Heydrich, prend ses fonctions à Prague. Alois Eliáš est presque immédiatement arrêté, jugé de manière expéditive et emprisonné à la prison de Pankrác, où il reste jusqu'à son exécution le 19 juin 1942, soit un jour après l'assassinat des parachutistes tchécoslovaques auteurs de l'attentat contre Heydrich. Alois Eliáš sera le seul représentant ministériel d'un pays occupé à être ainsi exécuté par les nazis pour son activité dans la résistance. En acceptant ses fonctions en 1939, il savait qu'il naviguait en eau trouble, que son destin pourrait mal finir, et même si d'aucuns lui disent que la nation lui en sera reconnaissante, Alois Eliáš, lui, est plus fataliste et prédit que la gratitude ne viendra que 60 ans plus tard. Il ne se trompera pas, comme le souligne Edward Sterlich.
Après la guerre, il a d'abord été distingué en tant que résistant. Il a été décoré de la Croix de guerre de manière posthume, puis est monté en grade. Mais très vite, il y a eu le changement de régime. Comme il était ancien légionnaire, officier d'une armée considérée comme bourgeoise, et qu'il avait évolué dans les cercles politiques du protectorat, il était aisé de le discréditer. C'est pourquoi il a été considéré comme un traître sous le régime communiste, avant d'être en partie réhabilité dans les années 1960, puis totalement après 1989. Částečného očištění se odstává až v závěru 60. let a potom
definitivně až po roce 1990. 64 ans après son exécution, Alois Eliáš a eu droit à des funérailles nationales. Sa dépouille, de même que celle de sa femme, se trouve aujourd'hui au mémorial de Vítkov à Prague.
Voilà, c'est la fin de ces faits-événements. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie pour la suite de notre programme. Une suite comme tous les 15 jours, le jeudi consacré à la rubrique tchèque célèbre et moins célèbre, avec aujourd'hui le portrait de Kateřina Geislerová. Kateřina Geislerová est styliste et créatrice de mode tchèque installée depuis bientôt 20 ans à Paris. Magdalena Rozinková l'a récemment rencontrée à Prague, où elle est venue présenter sa nouvelle collection de prêt-à-porter printemps-été 2012. Une collection très féminine et élégante, inspirée entre autres du style d'Audrey Hepburn. Dans ce nouveau numéro des Tchèques célèbres et moins célèbres, Kateřina Geislerová évoque certes la mode telle qu'elle l'aime et qu'elle la propose aux femmes françaises et tchèques, mais également ses débuts de styliste en France ou encore Prague, qu'elle trouve plus dynamique que Paris.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres.
Kateřina Geislerová, bonjour.
Bonjour.
Alors, la dernière fois que Radio Prague, en l'occurrence ma collègue Anna Kubišta, vous a interrogé à Paris, c'était en 2007, il y a 5 ans. Et à l'époque, vous veniez juste d'ouvrir votre boutique 53 rue Homer, pas loin du centre Pompidou. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis 5 ans et comment a évolué votre travail ?
La boutique, elle est toujours là, c'est toujours la mienne, donc ça n'a pas changé. Qu'est-ce qui a changé ? À l'époque, Je venais juste démarrer mes collections de prêt-à-porter. Donc ça, c'est vrai que mon travail, ma façon de travailler a beaucoup changé depuis ce temps-là, parce qu'avant, je travaillais surtout des pièces uniques, des séries limitées. C'était un travail de couture. Je ne peux pas dire de haute couture, parce que je suis pas... j'ai pas le droit de le dire, mais c'était vraiment plus couture comme travail. Et donc maintenant, le travail de prêt-à-porter, c'est un autre monde, c'est une autre façon de penser le vêtement, et les concepts sont complètement différents, le rythme est complètement différent parce que c'est deux fois par an les collections. Après, je crée également aussi des mini-collections. Enfin voilà, ma façon de travailler a changé, l'endroit n'a pas changé, et ce qui a également changé, c'est que grâce à ces collections de prêt-à-porter, je reviens beaucoup plus souvent à Prague, parce que c'est ici que je fabrique ma collection de prêt-à-porter.
Qui sont vos clientes en France ?
Étonnamment, il n'y a pas d'âge pour mes clientes. La femme qui s'habille chez moi, elle aime des vêtements originaux. Elle aime l'élégance, mais pas exagérée. Une élégance nonchalante. Et un vêtement qui peut surprendre. J'ai toujours un élément dans mon vêtement qui peut être étonnant, qui peut surprendre ou qui n'est pas habituel. Les femmes tchèques, elles n'aiment pas beaucoup ça, être le centre d'intérêt. Ça, c'est bien dommage. Et je pense que les femmes devraient prendre plus de confiance en elles, ici.
Quel est votre propre style à vous ? Qu'est-ce que vous aimez porter ?
Alors, j'ai un drôle de mélange de style d'Alexander McQueen, qui est très, très, très féminin. Avec des matières magnifiques, superbes. Et j'aime aussi le style comme des garçons, rien à voir, comme des garçons et Junya Watanabe, voilà, assez déconstruit, déchiré, sans forme aucune, des matières brutes, voilà. Donc, ces deux styles, ça dépend les jours, voilà.
Pour revenir à vos débuts à Paris, donc vous avez débarqué à Paris au milieu des années 90, vous étiez près de 20 ans à cette époque-là.
19.
Et vous aviez un petit ami français à l'époque.
Je l'ai rencontré à Prague.
Donc, c'était une histoire assez classique pour les Tchèques, les jeunes Tchèques de cette époque-là.
Oui, oui. Maintenant, je remarque que c'est l'inverse. C'est les femmes qui ramènent leurs petits amis français ici. Mais oui, à l'époque, je suis tombée amoureuse d'un français. C'était un coup de foudre assez fort. Moi, à l'époque, j'ai fini mon baccalauréat. J'étais libre, donc je pouvais partir. J'ai fait toutes mes études là-bas et notre amour a duré 8 ou 9 ans. Donc c'était une belle histoire d'amour, ouais.
Donc il vous a permis de vous installer à Paris. Vous avez fait des études de français, en fait, des études assez variées. Vous avez tenté l'histoire de l'art, des études européennes aussi, donc avant de faire vos études à l'Institut supérieur des arts appliqués. Est-ce qu'il y avait un moment décisif pour vous ou une rencontre décisive qui vous a poussé justement vers ce parcours de créatrice de mode ?
C'est vrai que je me cherchais pendant très longtemps et je n'étais absolument pas arrêtée sur le métier que je voulais faire. Comme je ne savais pas du tout et ce qui me paraissait le plus accessible, c'était décoratrice intérieure. Donc j'allais à Lisa et je voulais être décoratrice intérieure. Et en fait, la directrice, quand elle m'a vue, je ne sais pas pourquoi, elle m'a dit « Je ne te vois pas du tout décoratrice, essaye la mode. » Et comme je n'étais pas arrêtée, je me suis dit « Bon, elle sait peut-être plus sur des choses que moi je ne sais pas. » Et comme, voilà, quelque part, je m'en foutais un peu ce que j'allais étudier. Je voulais juste étudier quelque chose de plus artistique, à l'inverse de mon parcours universitaire. Et voilà, donc ça, c'était une rencontre sans elle. Bon, si ça se trouve, je serais une excellente décoratrice aujourd'hui, j'en sais rien. Voilà, la mode, franchement, c'est une passion et je suis très contente d'avoir découvert ça. Donc ça, c'est une rencontre importante pour moi. Et la deuxième, c'était quand j'ai fini mes études, J'ai remporté le premier prix de l'année, de l'école. Mmh. Et dans le jury, il y avait plein d'artistes. Et dans le jury, il y avait aussi l'écrivaine Eliette Abikassis, qui est une jeune écrivaine reconnue en France. Et elle est tombée amoureuse de ma collection. Et quelques mois plus tard, elle m'a commandé pratiquement toute la collection. Et pour moi, c'était en fait le point de départ. Je me suis dit, bon, s'il y a quelqu'un qui peut craquer à ce point-là pour tout ce que je fais, c'est que si ça se trouve, ça vaut le coup de continuer ça. J'ai fait quelques stages parce que tout le monde me disait... T'es folle, tu peux pas commencer comme ça ta marque sans aucune expérience, parce que c'est vrai, je n'ai fait que 2 ans d'études, et dans 2 ans d'études vous apprenez pas un métier. Mais voilà, il y avait des circonstances qui ont fait que j'ai dû faire un choix, soit aller bosser, soit tenter le truc toute seule à ce moment-là, et je me suis décidée. Et donc Eliette m'a présenté aussi d'autres amis qui ont vu les vêtements. Et en fait, voilà, petit à petit, le bouche à oreille s'est fait. Et voilà. Et Eliette est toujours ma fidèle cliente et amie. J'ai ouvert un showroom à l'époque, en 2002 ou 2003, je ne sais plus. J'ai commencé par un showroom où je recevais sur rendez-vous. Et puis, et c'est seulement après... en 2007 que j'ai ouvert la boutique.
Et y a-t-il quelque chose qui vous manque en France par rapport à la République tchèque? N'aviez jamais envie de rompre avec tout ce que vous avez fait, plus maintenant, mais dans vos débuts par exemple, quand c'était difficile d'arrêter et de revenir en République tchèque?
J'ai mis 3 ans à m'habituer à vivre à Paris. Je trouvais... les Parisiens pas super avenants, disons. Et encore une fois, je parle pas des Français, mais des Parisiens. C'est vraiment une sorte de personne à part. Et puis après, non, j'ai eu envie de rentrer jusqu'à maintenant. Jusqu'à récemment, j'ai de plus en plus envie de venir de plus en plus souvent et plus longtemps. Sans aucune raison, peut-être parce que je vends ici, parce que c'est dynamique. Je pense que c'est assez dynamique ici. Par rapport à Paris, en ce moment, je trouve qu'elle s'endort un peu sur ses lauriers. Et oui, j'adore venir ici. Ce qui me manque, c'est la nourriture tchèque, là-bas, toujours. Mais, et puis, j'aime les Tchèques. Je trouve qu'ils sont assez sincères, assez francs. Et ça me manque un peu chez les Parisiens.
On dit souvent qu'il est possible de deviner le caractère de la personne selon la façon dont elle s'habille. C'est vrai? Vous y arrivez ou c'est un cliché?
Je pense que c'est un total cliché. C'est un total cliché. Il y a des personnes qui n'en ont rien à faire de bien s'habiller. Ça ne veut pas dire qu'elles sont négligées dans leur vie. Il y a des personnes qui n'ont pas d'argent. Ça ne veut pas dire que... Enfin, non, je pense que c'est vraiment un grand... C'est très faux.
Voilà, c'est donc avec la styliste et créatrice de mode tchèque installée depuis bientôt 20 ans à Paris, Kateřina Geslerová, qui était interrogée par Magdalena Rozinková, que s'achève pour aujourd'hui le bloc actualité préparé par la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention. Merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à notre écoute.